Notre invité aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement le frangin de Michel Galabru. Il se prénomme Marc. Voilà. Bonjour, Marc Galabru.
Bonjour, bonjour.
Et bienvenue dans les studios de CFM. Vous avez été médecin pendant près de 40 ans, oui. Y compris dans les pays en voie de développement. Vous vous consacrez aujourd'hui à l'écriture. On va en parler dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui vous a fait arrêter ce premier métier qui était le vôtre?
Oh, vous savez, on arrête d'abord parce que l'âge est là. Lorsqu'on a fait la médecine générale dans les plaines de Champagne, dans le brouillard, la neige, la pluie, le verglas, les cours de ferme, parce que j'étais mi-urbain, mi-rural, il arrive un mois, une année, une époque, appelez-la ce que vous voulez, où on aimerait bien poser son sac. Voilà. Pas avec regret, pas avec non, mais voilà, poser son sac.
Repos bien mérité.
Et surtout la nostalgie des pays du Midi, parce que je suis originaire de l'Hérault. Comme beaucoup de gens, je suis monté dans le Nord pour gagner ma vie. Hein, le fameux Nord de mon frère, voyez-vous là, le Nord.
Et puis, quand
j'ai eu l'occasion de redescendre au soleil, eh bien, je suis redescendu.
Voilà. Avec plaisir. Mais vous avez un peu fait le tour du monde?
Non, si vous voulez, moi j'ai été médecin généraliste, donc dans les plaines de Champagne. Et puis, on m'a demandé, comme on pouvait le demander à beaucoup de médecins, s'ils voulaient consacrer un peu de leur temps à partir en mission dans le tiers-monde. On appelle ça comme ça. Je suis donc parti effectivement à titre humanitaire, le mot est magnifique, mais enfin bon, voilà, pour diriger une espèce d'hôpital, enfin hôpital, hein, l'hôpital dans le tiers-monde, c'est de la tôle et puis de la terre battue. Hein. Parti diriger un hôpital au fin fond des Comores, voilà.
Juste avant cette interview, je vous voyais regarder un petit peu les cartes sur votre agenda, vous restez
friand
de voyage.
Oui, parce qu'en ce moment, il y a un certain nombre de bouleversements. J'ai été un élève extrêmement mauvais, j'ai été un cancre intégral. Donc, la géographie, il y a des pans entiers qui me manquent. Alors, en ce moment, comme c'est agité un peu partout, j'essaye de savoir où c'est. Alors, je suis tombé sur une carte et en vous attendant, je regardais où tout ça pouvait se passer.
Vous regardiez quoi, la Libye?
Je regarde la Libye parce que je me suis trouvé enfermé en Libye, moi, autour. Je revenais du Tchad et l'avion s'est arrêté là et puis je me suis trouvé avec des mitraillettes partout, des barbelés. Donc, mais je savais pas où c'était, vous voyez. Je savais pas où c'était. J'étais très content d'en repartir.
Ça vous évoque quoi, justement, ces mouvements populaires dans le Maghreb, le monde arabe aujourd'hui?
Ben, je trouve que je ne devrais pas donner un avis parce que c'est très, très, très compliqué. Il y a probablement des tas de paramètres qui nous manquent. Je pense effectivement que, comme dans beaucoup de pays, il régnait là-bas des dictatures insupportables. Bon, on est en train d'essayer de les ficher en l'air intuitivement et sentimentalement, je pense qu'on a raison. Mais est-ce que les révolutions dans l'ensemble sont bonnes? Est-ce que l'avenir sera meilleur qu'il n'a été? Je ne sais pas. Moi, mes souvenirs historiques sont en général que un tyran a été remplacé par un autre. Tout le monde a applaudi au départ du chat. C'était pour récolter Khomeini, merci, hein, c'était pas la peine. Hein.
Vous avez grandi.
Voilà, je vous dis ça comme ça, mais je suis incompétent, hein, c'est tout. Hein.
Vous avez grandi au Maroc. Vous
êtes resté né au Maroc.
Vous êtes né au Maroc. Oui, oui. Oui. Vous y êtes resté combien de temps?
Oh, très peu de temps, puisque je suis parti, j'étais tout enfant. Mais mon père, il a fait des travaux importants. Il a construit le port de Safi, il a construit le port de Casablanca. Il était ingénieur des travaux publics. Mes frères y sont nés. Donc moi, on m'a tellement parlé du Maroc en famille qu'il y a des moments où je me demande si je n'y ai pas passé une partie de ma vie. Voilà. Je mélange les souvenirs que je n'ai pas et les souvenirs des autres.
Vous le disiez, vous étiez un cancre. Votre
oui,
frère.
Un cancre intégral, oui.
Votre frère.
Incontestablement, ça.
Votre
fait.
Frère Michel également, apparemment.
Mon frère Michel a été aussi un cancre. Un peu moins que moi, puisqu'il a mis 5 fois pour passer la première partie du bac et moi 6 fois. Ce qui est presque un record. Oui, je revendique le cancre. Voilà.
C'est étonnant, en fait.
Je
que
revendique,
vous ayez...
je ne m'en vante pas, je constate. Hein.
C'est étonnant quand même parce que quand on a du mal à avoir son bac et qu'on fait des carrières comme celle de votre frère et la vôtre aujourd'hui, c'est
vous
plutôt...
savez, c'est un peu amusant cette affaire. Oui, un beau jour, on s'est trouvé. L'anecdote est vraie. Hein, on s'est trouvé au métro Franklin Roosevelt à traîner la savate avec mon frère et il m'a regardé. Il m'a dit, tu sais, il nous faudrait bien la femme blonde, la voiture décapotable et le chien. Ah, je lui dis oui, c'est un programme exceptionnel. Mais je lui dis comment faire. Il m'a dit, il faudrait qu'on se mette à travailler. Et vous me croirez si vous voulez, mais on s'est mis à travailler à partir de cette réflexion anodine mais importante.
Il n'est jamais trop tard, c'est la leçon de deux choses.
Voilà.
Alors justement,
moi j'ai refait toutes mes études la première année de médecine parce que quand je tombais sur un problème de chimie, moi je partais aux fractions. Voilà.
Les relations justement avec votre frère, ça a toujours été copain comme cochon?
Oh, mieux que ça, une espèce de passion fraternelle nous réunit. Elle est spéciale, elle s'explique parce que nous sommes des enfants de la guerre. Et nous avons donc vécu dans la même chambre. Il est connu que quand deux êtres partagent comme ça une pièce unique, dorment ensemble, se réveillent ensemble, etc., il y a des liens qui se tissent et qui sont définitifs.
Un peu frère jumeau?
Non, parce qu'il est quand même mon aîné. Hein,
vous vous ressemblez
enfin,
vous fort en tout cas.
À partir d'un certain âge, ça se rejoint tout ça. Hein.
Hein, vous vous ressemblez fort en tout cas.
Oui, ma mère était une honnête femme. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Hein.
On va se retrouver dans quelques instants. Juste avant, une dernière question. Peut-être deux mots sur l'arrivée de l'écriture. Vous avez toujours voulu écrire et vous avez attendu
oui,
la retraite.
Oui, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, comme dit je ne sais qui dans les rustres de Goldoni. Il faut dire les choses comme elles sont. J'ai été un cancre, sauf en français et en littérature. Où j'ai toujours été, je ne sais pas pourquoi, je constate aussi, je ne porte pas de jugement, un petit héros dans mes classes. J'ai toujours eu 18,5, 19 en français et 0 en maths. Enfin, j'avais 19 en français.
Voilà. C'est votre maman, votre papa qui vous a transmis cet amour des lettres?
Non, mon père était un scientifique. C'est ma mère qui m'a donné le titre de mon premier livre, Le petit cheval dans le mauvais temps, parce que c'est un poème de Paul Fort qu'elle me récitait quand j'étais enfant.
Nous sommes aujourd'hui avec Marc Galabru dans les studios, deuxième et dernière partie. Alors on parlait de votre frère hein, juste avant, on va parler de votre écriture puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Vous êtes non seulement écrivain mais aussi conférencier, c'est le manier le verbe qui vous intéresse.
Oui, mais l'un est lié à l'autre si vous voulez. Bon, j'ai écrit un certain nombre de livres et je fais de ci, de là, des conférences, parce que d'abord j'aime beaucoup ça, c'est très agréable, c'est un contact avec les gens, parce que ce sont des conférences, j'aime pas les grands mots, mais enfin, interactives, c'est-à-dire que je demande aux gens de me poser des questions. Mais c'est pour moi une manière de parler un petit peu de mes livres et d'en faire la promotion, voilà. Donc si vous voulez, j'aime beaucoup ça, c'est très agréable, c'est un grand contact avec les gens, mais en plus ça me sert, il faut être honnête, de promotion pour mes livres.
Voilà. À chaque fois avec beaucoup d'humour, j'ai sous les yeux le monogame intermittent. Je lis le monogame intermittent. On était déjà infidèle, enfin souvent, il y a deux siècles. Oui. La moyenne de la durée de vie humaine n'était pourtant que de 32 ans. Le oui. temps était compté, il fallait faire vite. Alors peut-on encore être monogame au XXe siècle? C'est toute une question, ça.
Effectivement. Hein. On peut penser que la moyenne de la vie humaine étant de 81 ans, il est pratiquement inhumain, voire impossible, de ne connaître qu'un seul amour pendant un temps aussi long. Voilà, sans être malhonnête. Hein. Donc on reste monogame. Si on est honnête, mais intermittent.
Un certain nombre de vos ouvrages vous ont remporté des prix. Vous en gardez quel souvenir? Vous affectionnez comme ça la reconnaissance?
Non, mais je suis comme tout le monde. J'ai un éditeur. C'est pas moi qui m'en occupe, ça, en toute honnêteté. Hein. Il voit qu'il y a un prix quelque part, il envoie un de mes livres. Voilà. Alors après, j'ai ou je n'ai pas le prix. Le problème n'est pas là. Effectivement, j'ai eu des prix littérés. Bon, d'accord. Ça fait plaisir, vous savez. Nous sommes tous orgueilleux, moi comme les autres. On me donne un prix, ça me coule dans le dos. C'est tout. On nie soit qui mal y pense, mais hypocrite qui ne le reconnaît pas.
Je ne saurais quel livre de vous mettre en avant. Alors si vous le voulez bien, j'en ai quelques-uns sous les yeux. Vous nous faites une petite phrase pour nous résumer le sujet principal?
Si vous voulez.
Allez, La vie est un théâtre.
Ah, La vie est un théâtre, c'est une conférence, c'est pas un
oui.
livre. Hein, hein, voilà. Eh bien, c'est basé sur deux phrases, une de Sacha Guitry. Je n'aime pas mon médecin ce soir, il ne joue pas bien. Bon, je crois que ça veut tout dire d'ailleurs, c'est suffisant. Et cette autre phrase qui est merveilleuse, tout le monde joue à peu près bien la comédie, sauf quelques comédiens. Nous sommes tous dans un rôle en fait, hein. Faut voir les choses comme elles sont.
Quelques conférences encore avec Voyage dans le monde du showbiz. Là, c'est votre frère qui vous a inspiré ça?
Ah non, non, parce qu'il a très peu voyagé. Mon frère est un timide, mon frère est un humble, mon frère est réservé, mon frère vit chez lui avec son chat, son chien, sa femme, ses enfants. Et le showbiz, c'est pas son truc. Il est obligé d'en faire partie parce qu'il en est un des membres, si j'ose dire. Non. Mais grâce à lui, j'ai pu recueillir suffisamment d'anecdotes pour, en les étoffant, faire une petite conférence qui est assez agréable. Voilà, du moins je crois, d'après les gens.
Conférence toujours, l'écologie de l'apocalypse annoncée.
Oui, oui. C'est une conférence que j'ai abandonnée parce que les gens, dès qu'il s'agit de ce sujet, sont agressifs. Moi, je fais des conférences pour le plaisir. Je ne défends pas mes idées parce que je n'en ai pas suffisamment. Mais enfin, j'apportais un certain nombre d'éléments dont certains sont contradictoires. Et ça m'était traitait certaines gens dans une agressivité qui était désagréable, comme je m'en fous. Je préfère ne pas faire cette conférence, parce que moi, la conférence est un moment agréable. Bon, certains savants mettant en doute le réchauffement climatique, je l'ai cité, je me suis fait presque agresser, alors que je m'en fous. Hein.
Voilà.
Donc j'ai abandonné cette conférence parce que, je ne sais pas pourquoi, les gens là sont idéologues, sont agressifs, sont... voilà, bon, puis bon... voilà.
Hein. On en arrive au livre, une si longue marche.
Oui, une si longue marche, ça c'est parce que en 50 ans, c'est-à-dire ma vie, la durée de ma vie, il s'en est passé plus qu'en 20 siècles. C'est hallucinant, hein. Je dis bien, plus qu'en 20 siècles. Hein. Il a fallu 17 siècles pour passer de la fronde à la balle de fusil et quelques mois pour passer des armes normales à la bombe atomique. Je ne vous parle pas de la radio, nous sommes là, d'Internet, à la base probablement des révolutions généralisées.
Ça vous fait peur?
Internet, ah oui, ça fait peur, oui.
Allez, le petit cheval dans le mauvais temps.
Le petit cheval dans le mauvais temps, vous remplacez... oui, ça s'était mis en chanson, mais l'origine, c'est un poème de Paul Fort, c'est pas la chanson. Que la chanson est très belle, d'ailleurs, le problème n'est pas là. Mais c'est une... quand je me suis retrouvé, figurez-vous, dans les plaines du Nord, avec ma serviette, mon stéthoscope, et puis quelquefois, à l'époque, encore une lame de rasoir pour saigner les gens qui avaient un édème aigu, je me suis pris pour ce fameux petit cheval qui traînait une carriole de douleur. Alors vous remplacez le petit cheval par le petit médecin et vous avez le livre.
Pour terminer, le mot de la fin.
Oui, le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, il n'y en a pas parce que c'est une continuité. Donc je ne pense pas que les choses peuvent se conclure, les choses ne peuvent que continuer. Donc la vie est un long fleuve tranquille.
Merci beaucoup d'être venu, Marc Galabru.
Mais avec plaisir, tout
ici,
le plaisir était pour moi.
Vous avez un peu de mal à trouver la radio, c'était compliqué.
Ah oui, ça j'ai eu beaucoup de mal à trouver la radio, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, puis après elle est au deuxième étage, et pour le vieux schnock que je suis, ça essouffle. Hein. Bon.